Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. En cette période d'élections législatives, nous retrouvons les candidats excentriques de la Troisième République. Je vous avais laissé sur votre faim lors de ma précédente émission. Alors commençons par les élections de 1877, marquées par Adolphe Bertrand, surnommé le candidat omnibus en raison de sa manie à se présenter à toutes les élections et même à la présidentielle depuis 1848. Son programme reposait essentiellement sur l'opposition entre humains et inhumains. Évidemment, il est le représentant des humains et il menace ceux qui voudraient s'opposer par cette phrase terrible: toute opposition à la candidature humaine est une négation du bien. Mais on trouve aussi dans son programme le bicamérisme, dont une des deux assemblées serait exclusivement féminine. Même aujourd'hui, ils n'y ont pas pensé. À cela, il faut ajouter qu'il cherchait à démontrer que les femmes, ces dieux du genre masculin, ont autant de droits de vote que les hommes, et il demandait, pour les deux sexes, le suffrage universel, écrit Simon Brugal. Il était aussi pacifiste, car candidat humain et universel, il envoyait des circulaires imprimées à tous les notables électeurs de toutes les communes de France. Jamais il ne fut élu. Il était aussi contre la peine de mort. Si la nation refusa de l'écouter, sa femme et les habitants de Sceaux, où il habitait, et où il fut plusieurs fois conseiller municipal, crurent en lui jusqu'à sa mort en 1887. Parmi les candidats excentriques, deux me tiennent particulièrement à cœur: Rodolphe Salis et Alphonse Allais. Rodolphe Salis, un peintre qui fut certes plus connu comme le génial cabaretier du Chat Noir, ce cabaret dont Maurice Donnet écrit. Ce cabaret où se retrouvèrent les anciens hydropathes, les anciens hirsutes, poètes, musiciens, peintres, sculpteurs, en un mot des artistes, et l'on ne saurait s'imaginer, c'est qu'en 1881, dans un cabaret Louis XIII à Montmartre, ce mot artiste pouvait contenir de jeunesse, de gaieté, d'audace, de lyrisme, de fantaisie, de je m'en fichisme, de misère, de certitude dans l'incertitude du lendemain, de théories subversives, de fumisterie, de fumée de gloire, de fumée de tabac, de soif, de barbes et de cheveux. Chaque soir, on se réunissait, on récitait des vers, on chantait des chansons. La renommée de ces fêtes étonnantes se répandit bientôt dans Paris. Bientôt, la grosse finance, la politique nantie, la noce dorée vint rendre visite à l'insouciance de Bohème. Et le vendredi, surtout, qui devint le jour chic, on vit au Chat Noir des femmes de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie, et aussi des horizontales, comme on disait en ces temps verticaux. Ainsi écrivait Maurice Donnet en se souvenant de ce fabuleux cabaret. Pour illustrer le Chat Noir, je vous propose la chanson d'Aristide Bruand, La Ballade du Chat Noir.
Le Chat Noir, chanté par Aristide Bruand. La lune était sereine, quand sur le boulevard, je vis poindre sa tête qui me dit faire soir. D'où viens-tu, vieille branche? Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est de maladie. Je cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche ma sud autour du canoir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir. La lune était moins claire lorsque je rencontrais mademoiselle Claire, à qui je murmurais: comment vas-tu la belle? Très bien, et vous merci. À propos, me dit-elle, que cherchez-vous ici? Je cherche fortune autour du chenoir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chenoir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir. La lune était plus sombre, en haut les chats braillaient, quand j'aperçus dans l'ombre deux grands yeux qui brillaient. Une voix de rogombe me cria: nom d'un chien, que vous y prends un homme, que faites-vous? Moi, rien. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir. La lune était obscure quand on me transporta dans une préfecture où l'on me demanda: êtes-vous journaliste, peintre, sculpteur, rentier, poète ou pianiste? Quel est votre métier? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon meurtre le soir.
Je ne peux résister à l'envie de vous lire des extraits du portrait que fit Laurent Taillade de ce gentilhomme cabaretier, comme l'avait surnommé le génial pamphlétaire Léon Blois. Juste une petite parenthèse sur Laurent Taillade. Il fut poète et romancier, critique aussi, anarchiste connu et reconnu. Donc voici ces extraits tirés de son livre « Les petits mémoires littéraires ». C'était alors un homme carré d'épaule, roux de poils et de teint vermillonné. Sans âge, encore que bedonnant, et le visage griffé de nombreuses rides, il avait franchi évidemment la quarantaine depuis quelques ans. Néanmoins, il portait beau, poitrinait dans un romantique pourpoint dont le satin à ramages contrastait avec la sobriété d'une redingote sombre et élégamment coupée. Intacte, sa chevelure fauve s'accordait à sa barbe cuivrée et lui donnait l'aspect d'un reître flamand peint par Van Guyp ou par Gérard David. Il soignait cette ressemblance, qui faisait partie intégrante de son personnage, du rôle que chaque jour il soutenait en public. Seul déjà, sous la paupière bouffie et ratatinée, l'œil amorti par le gaz, les veilles et les intempérantes libations avaient perdu sa femme bleue. Bouffi et ratatiné, l'œil amorti par le gaz, les veilles et les intempérantes libations avaient perdu sa femme bleue. Il clignotait dans la vive lumière du plein jour. À la voix aussi, rauque et sourde, manquait plus d'une corde. Il fallait au pitre l'animation de la parade, l'échauffement du tréteau, l'électricité que dégage la foule. Maître alors de sa faconde comme de son organe, il retrouvait ce baryton de bronze emphatique, mordant et goguenard, cette voix dont les tonnerres bafouaient cyniquement le philistin. Histrion, Salice avait besoin de paraître en scène pour jouir de tous ses moyens. Cette prodigieuse nature de charlatan ne donnait son plein que durant la banque. Peintre médiocre, sans talent ni avenir, après quelques saisons de dèche noire et de bohème, Salice, doué en revanche d'un instinct commercial tout à fait hors de pair, jeta sa palette par-dessus les moulins de Montmartre et délibéra d'ouvrir un estaminet. Devinant la curiosité du riche pour les corps d'État qui l'amusent, peintre, musicien, poète, pour les existences en marche qui tendent à l'art et qu'a servi la pauvreté, il fonda une guinguette d'un genre nouveau. Afin d'attraire la clientèle riche, il en fit payer l'entrée un prix exorbitant. Cet homme cruel fut un manager de tout premier ordre. Le metteur en scène était égal au cabotin. Il connaissait à fond la bêtise du monde qui s'amuse, le vide intellectuel des oisifs. Par une volte ironique de la fortune, Salice, jeune encore, ayant acquis des bois, des fermes, Salice, seigneur de Chanoirville en Vexin, disparut sans jouir de l'emplaisance que lui avait faite le travail d'autrui. Il ne sut pas en effet se mettre à couvert des tentations qui l'enrichissaient. Quelle maladie est comparable à l'alcool ? Au lieu de garder les fous en romain de couture, il prit part à leur folie, il but la mort, dans le flot sans honneur de quelques noirs mélanges, donnant ainsi une revanche à tant de misérables que son amour du lucre, sa cupidité féroce, avait exploité jusqu'au tombeau. En 1884, ce gentilhomme cabaretier, ainsi que l'avait surnommé le génial pamphlétaire Léon Blois, fit campagne pour la séparation de Montmartre et de l'État. C'est un premier essai qui repose avant tout sur l'affichage. Il s'amusera encore plus en 1889 lorsque le général Boulanger se présenta aux législatives. Il s'amusera encore plus en 1889 lorsque le fameux général Boulanger se présenta aux législatives. Sali refit alors une campagne d'affichage totalement délirante. En voici quelques extraits. Qu'est-ce que Montmartre ? Rien. Que doit-il être ? Tout. Ça, c'était pour 1884. Maintenant, pour 1889. Électeurs, on vous trompe. Depuis 2 ans, un imposteur, abusant d'une vague ressemblance physique, se fait passer pour le général Boulanger. Or, le général Boulanger, c'est moi. Mon programme, il est simple. La révision de la Constitution tous les 3 mois. Je déclare donc que je prends pour mienne toutes les voix qui se porteront sur le nom du général Boulanger. Et si je suis élu, je ne conseille pas à l'individu en question d'affronter en même temps que moi le seuil du Parlement. Électeur aux urnes et pas d'abstention. Rodolphe Salice, directeur du Chat Noir, seigneur de Chanoirville, en Vexin. Le général Boulanger fut la star politique de l'époque. Pour preuve, cette chanson de Paulus, en revenant de la revue, chantée par Bourville.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma sœur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Puis après avoir cassé la croûte, en cœur nous nous sommes mis en route. Les deux femmes avaient pris le devant, moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait en porter, quoi pouvoir vous loter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait de jambonneau. Ma belle-mère comme frigo avait une tête de veau. Ma fille son chocolat et ma sœur deux œufs sur le plat. Gais et content, nous marchions triomphants. En allant, allons sans le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt de Longchamp, on foule la pelouse, nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et on se met à saucissonner. Tout à coup on crie vive la France, crédit c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur Camelet, lancier, acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains quand défile les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en luttant les spahis. Moi je faisais qu'admirer le brave général Boulanger. Gais et content, nous étions triomphants. de nous voir à Longchamp le cœur à l'aise. Sans hésiter, nous voulions tous fêter, voir et complimenter l'armée française. En route, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de lécher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Et le soir, lorsque nous nous rentrons, nous sommes tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramener un fantassin, ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère au petit trot galopait au bras d'un turco. Gais et content, nous allions triomphant, en revenant de Longchamp, le cœur à l'aise. Sans hésiter, nous venions d'acclamer, voir et complimenter l'armée française.
J'en arrive à mon cher Alphonse Allais, cet humoriste. À l'humour acerbe et absurde, reste une référence pour tout humoriste distingué. Il fut adulé par les surréalistes comme un exemple de subversion. Il y a tant à dire sur Allais, mais aujourd'hui je me cantonnerai à sa candidature en 1893. Il se présente alors comme candidat anti-bureaucrate et anti-européen. Et là, je laisse la parole à Bruno Fulini, qui, dans son livre « Votez fou » aux éditions Auray, relate la candidature de Capitaine Cap, le prête-nom d'Alphonse Allais. Dans la torpeur d'un été parisien, ce candidat aux idées larges, ennemi déclaré de la routine et des papasseries, fait le régal de la presse. Il a l'accent anglais, est né à Paris, mais je le soupçonne de parents marseillais, rapporte Charles Quinel dans le Charivari. Son passé promet pour son avenir. Il a fait 10 ans la chasse aux veaux marins, arrêté 10 trains en marche et, Dieu s'ils vont vite dans le Far West, enfin, enfoncé le capitaine de 15 ans Jules Verne, lui il était déjà à 12 ans. Questionné sur son titre, anti-bureaucrate et anti-européen, le capitaine Cap a affirmé qu'il ne voulait rien dire et que cette ligne était simplement placée sous un nom pour faire bien. Rien que cette phrase m'a prouvé son amour de l'ordre et de la régularité. Quant à son programme, il n'en a pas. Fidèle interprète de ses électeurs, le capitaine Cap, s'il est nommé, demandera au pays ce qui lui sera demandé à lui-même. Voici quelques extraits de son affiche. Citoyens, homme neuf, j'arrive avec des idées neuves. Je veux vous faire profiter de ces idées. C'est pourquoi je viens à vous. Si vous me nommez, c'est un honnête homme que vous enverrez au Palais Bourbon. Je ne crois pas devoir en dire davantage. Après 20 ans de mer et de Far West, lorsque je remis le pied sur le cher sol natal, qui trouvais-je ? Mensonge, calomnie, hypocrisie, malversation, trahison, népotisme, concussion, fraude et nullité. L'origine de tous ces mots, citoyens, n'allez pas la chercher plus loin. C'est le microbe de la bureaucratie. Or, on ne parlemente pas avec les microbes. On les tue. Et c'est ce que je me suis juré de faire en dépit de tout. Certains politiciens, vous le savez, ont intérêt à maintenir ce triste état de choses. Car ce qui ruine le peuple, les fait vivre et les engraisse. Mais ils sont assez gras comme cela, ces hommes néfastes. Écartons-les de nous. Voici quelques projets délirants. Alors, on commence d'abord par l'aplanissement de la butte Montmartre. Ou bien, au cas où cette mesure serait trop coûteuse, la surélévation de Paris à la hauteur de Montmartre. Ces grands projets de nivellement n'empêchent d'ailleurs en rien le capitaine Cap de réclamer d'autre part la construction sur la même butte d'un fort observatoire dont les lunettes serviraient de canon en période de guerre. Dans le 9e, il propose le prolongement de l'avenue Trudaine vers la place de l'Étoile, et ce par les deux bouts. Au cours d'un meeting mémorable à l'auberge du Clou, le candidat anti-bureaucrate et anti-européen a su faire preuve d'un sens aigu de la démagogie en s'engageant à résoudre le problème du blanc-gras, une des principales préoccupations de ses électeurs artistes. Accaparement par l'État du monopole des fontaines d'eau chaude, défense d'abandonner des tunnels sans lumière sur la voie publique, création d'un conseil des disques pour prévenir les accidents de chemin de fer. Ces mesures aussi novatrices qu'énergiques obtiennent un très large écho. Le chef-d'œuvre du genre, le percement du grand tunnel polyglotte, divisé en compartiments scolaires où seront enseignées les principales langues du monde. Tout citoyen conduira son fils âgé de 6 ans au commencement de la voûte et 10 ans après, il ira le chercher à l'autre bout, récupérant ainsi un enfant qui, à moins d'être sourd-muet, saura parler toutes les langues. Notre excellent cap trouvait immédiatement réponse à tout, solutionnait à la minute les plus gordiens problèmes, s'engageait s'il était élu, ce qui ne semblait pas douteux, à gorger toute sa circonscription d'une foule de bienfaits plus anti-européens les uns que les autres. Se souviendra le principal instigateur de la campagne dans Allègrement. Un livre d'Alphonse Allais dont je vous recommande la lecture, car c'est un véritable régal.
Un petit intermède d'Éric Satie, le grand ami d'Alphonse Allais, trois morceaux en forme de poire, interprétés par Robert et Gabi Casatsu.
Thank you.
Voici donc ce que la fantaisie, l'esprit, la dérision, l'humour, la légèreté étaient capables d'offrir à la fin du XIXe siècle aux électeurs. Ces candidats délirants, l'on en rencontrera tout au long du XXe siècle jusqu'à Coluche qui paya cher ses pitreries. Nous sommes en 2022 et les élections nous ennuient. Mais ces quelques hommes dont je vous ai parlé seraient aujourd'hui taxés de complotisme, seraient mis au banc d'une société bien pensante et conformiste. Surtout ne pas faire de vagues, surtout pas de folie, pas de gaieté. C'est cela le progrès. Chères auditrices et auditeurs, l'émission est terminée. Nous aurions pu rester encore très longtemps avec tant de candidats toqués. Je n'en ai choisi que quelques-uns. J'espère que tout cela vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.